Faut que je recommence ce que j'ai dit. Pour faire un résumé, on est arrivé à un point où est-ce que Christ est entouré d'une certaine foule, où est-ce qu'il y a des Juifs, des non-croyants et des incrédules. On a vu que Jésus fait un miracle, il délivre un démoniaque qui était sourd et muet. Et on a une partie des Juifs qui l'accusent de faire des miracles par le pouvoir de Satan, essentiellement, par le pouvoir de Béelzébul. Et on a une autre partie qui lui dit, nous, on ne croit pas vraiment, on a besoin de plus de miracles. Fais-nous un autre miracle, parce que guérir un muet, c'est pas assez. Donc, on a vu que Jésus a répondu à la fois à ces Juifs, et la dernière fois, quand j'avais enseigné, on a vu que Jésus avait répondu à ces incrédules. Et la réponse qu'il donne aux incrédules, essentiellement, c'est « Moi, Jésus-Christ incarné, je suis plus grand que Jonas et je suis plus grand que Salomon. » Si les Ninivites se sont repentis à la prédication de Jonas, à quelle plus grande raison vous êtes sans aucune excuse de ne pas vous repentir face au miracle que je mets devant vous? C'est essentiellement le raisonnement de Christ qui leur démontre la folie de leur incrédulité. Le texte de ce matin, en fait, le dernier bloc du chapitre 11 dans Luc, est un bloc qu'on devrait voir en tant qu'un seul bloc cohérent, un seul thème. Il va jusqu'au verset 54 pour terminer le chapitre. Mais je l'ai séparé en deux, parce qu'on voit qu'il parle aux pharisiens, puis dans un autre, dans le même discours, il va s'adresser aux scribes et aux docteurs, mais il reproche deux choses différentes, qui évidemment ont un lien ensemble, donc on fera ce lien-là quand on sera rendu. Mais Jésus les avertit en ce qui a trait de ce matin de l'hypocrisie des pharisiens. Pour se mettre un peu dans le contexte, on va faire la lecture des versets 37 à 44. Pendant que Jésus parlait, pendant qu'il était dans la foule, qu'il venait de répondre aux incrédules, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et il se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est en dedans, et voici, ces choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges, les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Dans ce texte, dans cette première partie du texte, Jésus parle à la foule, il fait son intervention par rapport aux incrédules, et il est invité par un pharisien. Évidemment, l'hypocrisie va être le thème de la réprimande que Jésus va faire à ce pharisien, un thème qui revient souvent quand on voit les contextes dans lesquels les pharisiens sont inclus dans le Nouveau Testament. Les gens avaient exigé un signe de Jésus. La réponse de Jésus avait été de leur dire « Je suis le seul signe que vous avez besoin. » Et Jésus fait briller la lumière de l'Évangile en public. Mais l'aveuglement du péché, spécifiquement dans ce cas-ci, des pharisiens, leur hypocrisie, les garde dans l'obscurité, les garde de voir la vérité. Au cours de sa réponse, c'est là que Jésus reçoit une invitation au verset 37. Évidemment, comme il est l'habitude de Jésus de le faire, il accepte l'invitation, sachant très bien que la personne qui l'invitait était un pharisien. Jésus était couramment dans le Nouveau Testament, familier avec les gens. Il était disposé à rencontrer toutes sortes de personnes et de partager un repas. Si on regarde au travers les siècles, au travers pas mal toutes les nations, les ethnies que nous avons à travers tout le globe, une chose est quand même assez courante, c'est qu'on aime bien parler devant un bon repas. C'est une des façons qu'on communique en tant qu'être humain. C'est une des façons qu'on a une communion avec les gens. Et Jésus se rendait tout le temps disponible. Et il est un bon exemple en ce sens pour nous à suivre. On devrait être sociable en tout temps avec toute personne, avec tout type de personne. Hein, Jésus s'est autant attablé avec des prostituées qu'avec des pharisiens, qui est à peu près pas mal à l'antipode des deux types sociaux que tu peux avoir dans une société. Hein, les rejetés-rejetés et les élites-élites. Et tout le monde entre. Donc, mais ce qui est particulier, ce que l'on voit encore une fois, c'est que Christ profite de chaque repas ou de chaque situation où il est mis en communion avec les gens pour faire ou apporter son royaume un peu plus près. Quand Jésus accepte l'invitation, c'est pour diriger les conversations vers Dieu. C'est pour diriger les cœurs vers son œuvre, vers son ministère. Et alors que Jésus se prépare à manger à la table de ce pharisien, lui qui était un juif et qui connaissait toutes les lois et toutes les pratiques et toutes les coutumes de ces hommes, omet de se laver les mains. Et je dis omission parce que le texte ne le spécifie pas, mais on en comprend très bien que Jésus a fait par exprès. C'était pas juste un oubli. Les pharisiens, évidemment, jouissaient d'une bonne réputation dans le monde israélite. Ils étaient considérés comme ces hommes moralement supérieurs, gardant la loi de Dieu. Ils étaient théologiquement conservateurs. Ils défendaient la parole, ils défendaient le Tanakh, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Ils connaissaient par cœur, souvent, ce qui est impressionnant en soi. Ils étaient généralement considérés comme les personnes les plus saintes d'Israël et qui avaient le souci le plus évident pour la piété. Si on ne connaissait pas le reste des Écritures et ce que Jésus reproche aux pharisiens, on serait quasiment tenté de croire que ça aurait été de bonne compagnie pour Jésus. Mais bon, on connaît le reste du Nouveau Testament et on connaît le reste de cette histoire. Avant même qu'il prenne la première bouchée, il a réussi à offenser son hôte. Ça part bien. Ça part bien le souper, comme on dit. Jésus réussit à offenser son hôte. Fort probablement, intentionnellement, Jésus omet de laver ses mains pour apporter quelque chose à cet homme. Et évidemment, on voit dans le verset 38 que l'homme est choqué. Ça nous dit dans le texte en français, il est traduit par « étonnement », mais le mot, à la base, est plus un étonnement négatif, genre un choc, scandalisé un peu, là. Pour comprendre pourquoi c'était considéré socialement inacceptable de ne pas se laver les mains pour un pharisien avant un repas, c'est nécessaire, évidemment, de savoir la symbolique que ces hommes croyaient. La question pour eux n'avait rien à voir avec l'hygiène physique, ok? C'était pas Dr. Arruda qui leur disait de laver leurs mains. Ça n'avait rien à voir avec l'hygiène personnelle. Ça avait tout à voir avec être cérémoniellement pur avant de prendre des aliments. Ainsi, avant d'avoir quelque chose à manger, ils versaient de l'eau sur leurs mains pour enlever les souillures qui avaient été contactées dans un monde pécheur. Ils purifiaient leurs mains. Vous pouvez probablement déjà comprendre pourquoi Jésus veut les provoquer à ce point-là. Certains pharisiens ont porté cette préoccupation à un extrême qu'on pourrait décrire comme étant obsessionnel, en passant par des rituels de nettoyage de mains très, très élaborés dans toutes sortes de circonstances. Cette citation de la Mishnah qui est en fait probablement le plus vieux écrit, la plus vieille collection de traditions orales qui a été mise par écrit chez les Juifs, nous donne une idée justement de ce que les Juifs comprenaient quand ils faisaient le lavage des mains. La Mishnah nous dit ceci, « Les mains sont susceptibles à l'impureté et sont nettoyées proprement jusqu'au poignet. Ainsi, si un homme avait versé le premier eau jusqu'au poignet et la deuxième eau au-delà du poignet, et que l'eau revenait sur la main devient propre. Mais s'il versait à la fois le premier et le second eau du poignet, et que l'eau coulait vers la main était impure. » Okay? Fait que si l'eau, elle coule, elle vient sur le poignet, elle dépasse un peu, puis elle revient, là, tes mains sont plus lavées, elles sont plus pures. Et là, après ça, il va continuer, puis il va élaborer comment, si tu oublies, mettons, de laver une de tes deuxièmes mains, c'est correct, celle-là est pure, mais si tu te frottes les deux mains ensemble, ils deviennent impurs. Par contre, tu as le droit de te laver le front ou de toucher un mur. Ça, ça ne rend pas impur. Bref, ça nous démontre qu'il y avait une obsession, une extrême dans ce qu'il faisait. Laver les mains de pharisiens, c'était quelque chose. Compte tenu de ces règlements spécifiques, on peut s'imaginer ce que les pharisiens pensaient quand Jésus omet de laver ses mains. C'est important de comprendre qu'il n'y a rien de moralement mauvais à ce que Jésus a fait là. Au contraire, Jésus pointe vers le ridicule de leur rituel externe. La seule chose que Jésus a violée, c'était la règle de ces hommes. C'était ce que ces hommes croyaient que Dieu avait dit à Moïse de faire. Mais ils n'avaient pas violé la loi de Dieu. Vous savez, les pharisiens étaient reconnus pour avoir énormément ajouté de règles extra-bibliques à la loi elle-même. Et cette règle en était une de ceux-là, ou de la façon qu'ils faisaient, du moins, était extrême. Ces règles ont par la suite été transmises de façon orale, justement, par cette Mishnah qu'on appelle. Ils croyaient que ceux qui brisaient une de ces règles-là se rendaient coupables d'être souillés, de ne pas être saints en mangeant le repas. Et c'est pourquoi Jésus cause cette offense. Il veut leur apprendre, ou je devrais peut-être dire les reprendre, sur quelque chose d'important. Comme Jésus le fait souvent dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la loi elle-même que Jésus condamne, mais bien ce que l'homme y ajoute. Bien que la loi mosaïque, la loi dans l'Ancien Testament cérémonielle, parfois avait certains rituels, les pharisiens allaient couramment au-delà de ce que Dieu demandait. Ils imposaient un joug qui était pratiquement impraticable par le commun des mortels. Ici, il y a une leçon qu'on peut apprendre ici ce matin, dès le début de ce texte, et c'est ce qui va être le sujet de la deuxième partie d'ailleurs du texte, pas cette semaine, là, mais une prochaine fois. C'est qu'en tant que chrétien, on doit apprendre à faire la distinction entre la loi de Dieu et nos propres opinions de la loi de Dieu, ou notre façon de pratiquer. Et ça va être le sujet, d'ailleurs, de la deuxième portion, donc je ne veux pas m'élaborer trop longtemps là-dessus. Mais les pharisiens avaient certainement des raisons spirituelles pour lesquelles ils pensaient que Jésus devait se laver les mains. Mais on doit faire une distinction entre ce que Dieu commande clairement et ce que nous, on pense qu'on devrait faire. Nos opinions, nos façons de faire, etc. Qu'est-ce que le cœur de l'hypocrisie? Vous savez, s'offusquer n'est pas nécessairement un signe de sainteté. Souvent, c'est un signe, en fait, d'immaturité. C'est un signe, même Jésus va dire, c'est un signe d'hypocrisie. Il y a des choses pour lesquelles on devrait être offensé, quand les gens blasphèment le nom de Dieu, etc. Mais on ne devrait pas être si facilement offensé par tout. Et on vit drôlement à une époque qui n'est pas si différente que celle que Jésus semble décrire, dans le sens où c'est très populaire de nos jours de s'indigner. Si vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux, vous allez rencontrer ce qu'on appelle en anglais du « virtue signaling », du signalement vertueux. Des gens qui démontrent de façon externe leur valeur et leur supériorité morale en étant offusqués et indignés par tout. C'était clairement le cas des pharisiens face à Jésus. Ils étaient très offusqués. On le sait parce que Jésus a révélé ce qui était dans le cœur des pharisiens. Il expose le péché, un péché d'auto-justification, de vouloir se complaire dans ce que l'on est, ce qui va inévitablement être de l'hypocrisie. Mais en tant que chrétien, justement, R.C. Ryle, dans un de ses commentaires, nous dit que l'introspection, plutôt que l'offense, devrait être ce que le chrétien favorise pour sa santé spirituelle. Mais Jésus va continuer, il va faire certaines critiques spécifiques et il va prononcer trois malédictions, littéralement des malheurs, sur les pharisiens à cause de certaines choses, qui nous amènent à voir quatre symptômes de leur cœur hypocrite, qui pourraient nous pousser à se poser la question ce matin, suis-je un hypocrite? C'est quand même assez légitime comme question. J'espère que la réponse est non, là, mais il faut quand même se poser la question et regarder ce que Jésus dit à ces hommes qu'il considérait comme des hypocrites. Le premier symptôme d'un cœur hypocrite est celui-ci. Quand je suis plus préoccupé par les apparences extérieures que par la piété intérieure. Et ça, Jésus l'établit en comparaison entre le rituel du repas des pharisiens et leur véritable condition spirituelle. On le voit au verset 39 très clairement. Le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et des plats, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapide et de méchanceté. » Quand un pharisien s'assisait à table, il observait attentivement les formalités. Mais imaginez à quel point ce serait dégoûtant si depuis 3 ans, vous utilisiez des verres que vous lavez seulement à l'extérieur. C'est un peu l'image que Jésus vient nous donner. Ou que vous laviez tout le temps comme juste l'endos de vos assiettes et pas celle où est-ce que vous mangez, tu sais. Le ketchup qui reste collé puis tout. Après 3-4 ans, ça vient gommer. L'image du gommage, c'est l'image du cœur des pharisiens. C'est ce que Jésus essaie de dire. L'analogie s'applique à la vie spirituelle. Certaines personnes pensent, comme les pharisiens, qu'il s'agit de bien agir, peu importe comment ils étaient à l'intérieur. Les pharisiens étaient ces types d'hommes. Pour eux, ce qui était important, c'était la conduite observable. C'était ce que les gens pouvaient voir de ce qu'ils faisaient. C'était ce que les gens pouvaient voir de leur vie spirituelle. Ils ne semblent pas avoir d'égard à ce qui est vraiment au-dedans d'eux. Ils maintenaient une stricte conformité aux choses extérieures, aux règles, aux lois, même aux lois extra-bibliques, pour avoir la meilleure des réputations possibles auprès des hommes. Mais Jésus leur rappelle qu'en réalité, ils sont sales. En fait, il va plus loin, il dit qu'ils sont comme la rapine à l'intérieur, remplie de cupidité et de méchanceté. La rapine, c'est le désir de vouloir avec violence, de prendre avec quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment, de façon violente, là. De t'accaparer. Ils pensaient qu'ils étaient saints, et d'autres le pensaient aussi, ceux qui les voyaient dans la société. Mais ils étaient comme ces gens à qui Ésaïe prophétise dans Ésaïe 29:13. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Les pharisiens ne faisaient que de maintenir une apparence religieuse. David Gooding dit ceci. Leur nettoyage rituel scrupuleux des tasses et des assiettes, de la profanation cérémonielle, leur a permis de sentir qu'ils avaient atteint un degré élevé de sainteté, alors que tout ce temps, ils faisaient peu ou rien au sujet de la cupidité et de la méchanceté, beaucoup plus grave, qui remplissait leur personne intérieure d'une réelle impureté morale. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il avait peut-être les mains propres, cérémoniellement parlant, mais leur cœur était sale, corrompu, indigne. C'est une folie d'agir ainsi, et même Jésus le dit dans le verset 40, « Insensé! Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? » Ce n'est pas un reproche de vivre de façon intègre, c'est un reproche contre ceux qui sont hypocrites et que leur dehors n'est pas comme le dedans. En d'autres termes, minimalement, on devrait dire que l'intérieur est au moins aussi important, si pas plus, que l'extérieur. Comme Dieu l'a dit au prophète Samuel dans 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. » Évidemment, notre témoignage compte, nos actions comptent. Évidemment, on veut avoir une bonne réputation auprès des hommes, mais ultimement, ces choses-là sont un symptôme, sont un résultat de notre vie intérieure qui est purifiée, qui est sainte. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Encore moins d'opposition, comme dans le cas des pharisiens. Évidemment, bien que nous ne sommes pas nous-mêmes des pharisiens, puisque nous avons la foi en Christ, il peut nous arriver, comme eux, d'être hypocrites dans certains domaines de nos vies. Et il faut se poser la question, ce matin, quel est l'écart entre ce que nous paraissons être et ce que nous sommes réellement? Peut-être qu'on parle avec courtoisie aux gens et qu'à l'intérieur, on a des pensées méchantes à leur égard. Peut-être qu'on résiste aux tentations sexuelles à l'intérieur du mariage, mais que secrètement, on nourrit la convoitise. Peut-être qu'on passe plus de temps à parler de nos requêtes de prière qu'à prier. Quel que soit le péché qui peut se cacher à l'intérieur de nous, comprenez ceci, l'obéissance extérieure sans piété intérieure, c'est de l'hypocrisie. Il faut se soucier de notre âme, se repentir de nos faiblesses, demander à l'Esprit-Saint de venir nous rendre conformes, intègres dans ces aspects qui sont difficiles de nos vies. Et la solution, une des solutions, je dirais, nous est donnée dans le verset 41 par Christ lui-même. Et ce n'est pas celle à laquelle on s'attendrait. Ce n'est pas celle qui nous paraît évidente dans notre culture aujourd'hui. On serait attendu à quelque chose d'un peu moins pragmatique et d'un peu plus comme spirituel. Mais Jésus, il va d'une solution qui est très pragmatique. Pour résoudre le problème de l'hypocrisie, il dit « offrez ce qui est à l'intérieur » au verset 41. « Donnez plutôt en aumône ce qui est en dedans ». Le New American Commentary dit ceci, dans le contexte de la cupidité, une purification appropriée du cœur intérieur se fait par la repentance conduisant à la générosité et à l'aumône pour les pauvres. Jésus contraste le cœur rapine des pharisiens, ce cœur qui est avide, qui désire prendre, avec celui d'un vrai chrétien qui a le cœur purifié, et qui donne, qui offre aux pauvres. C'est assez pragmatique comme solution de la part de Christ. Jean Calvin nous dit, « Il serait donc préférable de donner l'aumône avec ce que vous avez que de faire attention au lavage des mains et des tenses et de négliger les pauvres. » Une solution offerte à l'hypocrisie, évidemment, qui est offerte aux pharisiens dans le contexte, parce que Jésus connaît leur cœur, leurs problèmes, etc. Il leur dit, vous voulez arrêter d'être hypocrites, donnez à ceux qui ont réellement besoin. Puis arrêtez de laver l'extérieur, là, faire à semblant. C'est intéressant. Ça me fait penser, en fait, ça m'a tout de suite fait penser au passage de Jacques qui nous décrit ce qu'est la vraie religion. Hein? La vraie religion pure et sans tâche, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Le deuxième symptôme vient sous la forme de la première malédiction qui est prononcée contre les pharisiens au verset 42. « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Je suis hypocrite quand je suis plus préoccupé par mes opinions que par les grandes vérités qui comptent pour Dieu. Vous savez, si quelque chose intéressait les pharisiens plus que la purification extérieure, c'était probablement la dîme. L'argent, la purification, c'était pas mal les deux choses qui les intéressaient fort bien. La dîme était quelque chose qui était commandé, évidemment, par Dieu. Dans la loi de l'Ancien Testament, on peut aller voir dans Nombre 18, je ne lirai pas, je vous laisse aller voir cette semaine. Israël devait donner un dixième de son revenu brut pour soutenir la maison de Dieu et le peuple d'Israël, pour l'adoration de Dieu. Mais, comme les pharisiens le font souvent, ils ont pris ce commandement, ils ont poussé à un extrême, ils ont rajouté toutes sortes de lois extra-bibliques alentour de ça. Ils sont devenus tellement excessifs qu'ils coupaient chaque herbe à un dixième pour donner un dixième de leur menthe, un dixième de leur rue, un dixième de toutes leurs petites herbes, de toutes leurs épices dans leur garde-manger. Ils donnaient leur dîme. Ils la donnaient scrupuleusement. Au lieu de faire comme toute personne sensée, là, puis au pire, donner juste un peu plus, tu sais, arrondir, donner un peu plus avec générosité, eux, ils voulaient donner juste 10%. Pas plus, pas moins. À quelque part, dans tout leur ajout de la loi, dans tous ces ajouts extra-bibliques, les pharisiens avaient perdu la joie de donner avec générosité. Il avait perdu la notion qu'il donnait pour Dieu. Il manquait complètement le but fondamental de l'obéissance. Et c'est exactement ce que Jésus leur reproche. Vous donnez scrupuleusement de cette façon-là des choses qui sont, écoute, des détails minuscules. Puis vous n'aimez pas Dieu et vous n'aimez pas la justice. Les pharisiens ne défendaient pas les faibles, ne protégeaient pas les pauvres, n'accueillaient pas les étrangers, ils n'aidaient pas les veuves, ils n'adoptaient pas les orphelins. Ils faisaient aucune de ces choses que la Bible nous dit qui sont des œuvres bonnes et justes et des témoignages d'amour de Dieu. Mais ils étaient occupés scrupuleusement à fendre leur herbe. Vous comprenez à quel point c'est hypocrite? Ils gardaient leur façon de voir ce commandement de façon scrupuleuse dans un ou deux domaines minimes, mais ils négligeaient le cœur, l'essence de la loi d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer la justice. Il n'y a rien de plus clair que ça dans la loi morale, là. Si on met un fardeau sur les gens en tant que chrétiens, de ne pas écouter la télévision et qu'on se met à dire que la télévision c'est péché, mais qu'on consomme de la pornographie sur notre ordinateur, on est un hypocrite. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Vous comprenez ce qu'il dit? Ne faites pas la même erreur que les pharisiens en considérant vos opinions de façon disproportionnée. Aimez Dieu premièrement, aimez sa justice, aimez sa loi morale, aimez ses commandements. Mais faites attention de ne pas porter, de ne pas donner trop d'importance et de poids à vos opinions, à vous. Et c'est l'erreur que les pharisiens faisaient de façon répétitive. Ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est que d'ouvrir son portefeuille sans ouvrir son cœur, c'est de l'hypocrisie. De donner scrupuleusement, mais de ne pas donner avec joie, de ne pas donner avec générosité, ça ne sert à rien. Et c'est là qu'on voit que l'hypocrisie et le légalisme sont souvent très poches ensemble. C'est d'ailleurs la deuxième portion du texte qu'on ne lira pas cette semaine. Et par rapport au légalisme. Mais un fait intéressant, par contre, qu'on doit souligner. Au verset 42, Jésus dit, et c'est là ce qu'il fallait pratiquer, parlant évidemment de l'amour et de la justice, sans omettre les autres choses. Donc, comprenez ceci, Jésus n'est pas en train de dire aux pharisiens qu'ils n'avaient pas le droit de pratiquer la dîme de la façon qu'ils faisaient. Il avait le droit de faire ça aussi scrupuleusement qu'il voulait. C'est pas ça le but de l'intervention de Jésus. Il fallait pas omettre de donner la dîme. C'était bien de donner la dîme. C'était la façon dans leur cœur qui était prête à faire les choses scrupuleuses pour la dîme et ne pas les faire pour aimer Dieu et aimer sa justice. Donc oui, on doit porter attention dans nos vies, aux détails, à nos opinions. On doit avoir des opinions qui sont dirigées par la parole de Dieu sur toutes sortes de sujets extra-bibliques, je dirais. Mais premièrement, on doit aimer Dieu. Premièrement, on doit aimer sa justice. On ne doit pas confondre la loi de Dieu avec notre loi, une loi d'homme. Les pharisiens étaient plus préoccupés par les apparences extérieures que par leur vraie piété. Et pour eux, ce qui était désespérément important, c'était d'obtenir la reconnaissance des autres. Ce que les autres pensaient d'eux, ou ce qu'eux pensaient mériter des autres. C'était leur motivation. Et ça nous aide à voir, au verset 43, par la deuxième malédiction qui est prononcée sur les pharisiens, le troisième symptôme d'hypocrisie. Je suis un hypocrite quand j'ai envie que les gens reconnaissent mes réalisations spirituelles. Au verset 43, on lit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. » Vous savez, à bien des égards, les pharisiens étaient les élites de leur temps, les professionnels, si vous voulez. À bien des égards, nos élites, nos professionnels n'ont pas changé tant que ça. Ils sont encore prêts à se piler un sur l'autre pour avoir une promotion. C'était un peu de même, ça marchait. C'était très coupe-gorge. Ils étaient les hommes ayant la meilleure réputation, les hommes ayant le meilleur poste, qui gardaient leurs mains pures, donnaient une dîme précise, qui recevaient des sièges prioritaires dans les synagogues. Hein? Contrairement à eux, à nous, eux, ils aimaient ça s'asseoir en avant. Hein? Vous êtes tout en arrière. C'est pas un reproche en passant, je vous en veux pas. Mais pour eux, d'être en avant, c'était significatif d'avoir une place de prédilection. C'était souhaité, c'était les gens qui avaient un certain statut dans la société qui étaient assis en avant. Ils aimaient être accueillis avec respect, un respect particulier dans les rues, en grand nombre. Il y avait un peu l'effet célébrité, là. Ils aimaient être considérés des autres, être mis à la vue. Ironiquement, ils cherchent l'approbation des hommes en utilisant la religion comme un instrument de leur propre gloire. Je ne sais pas si vous catchez la sévérité de ce que je viens de dire. Ils cherchent la gloire des hommes en utilisant la religion. C'est dégueulasse. Il n'y a vraiment pas d'autre mot que dégueulasse. La foi devient un instrument de leur hypocrisie. Et c'est ce qui explique pourquoi Jésus est autant répugné à chaque fois qu'il parle aux pharisiens et qu'il voit leur cœur. Vous savez, dans ce sens, je comprends la réaction des gens du monde quand ils regardent une partie du christianisme qu'on appelle le health and wealth, l'évangile de prospérité, et quand on regarde ces charlatans s'enrichir sur le dos de Dieu, et quand on regarde la réaction des gens du monde qui nous disent « Ben oui, on sait bien, tu sais, les pasteurs, les chrétiens, c'est toute une affaire d'argent, puis des grosses églises, ils ont des gros chars. » Je comprends que les gens trouvent ça dégueulasse. Ça devrait nous répugner, nous aussi, vous savez, en tant que chrétiens légitimes. Je suis convaincu que c'est une des raisons pour laquelle les vrais chrétiens, les pasteurs fidèles sont appelés à dénoncer de tels loups dans leur sein. Au contraire, la parole de Dieu nous avertit que si on a un témoignage fidèle aux Écritures, on va probablement être rejeté comme le Maître a été rejeté. Si on vit dans une culture, compétitive, un peu comme les pharisiens, à d'autres niveaux évidemment, là, mais dans lesquels les gens se comparent sans cesse à tout, à un l'autre, comparent leur travail, comparent leur vie, comparent leur famille, leur salaire. Et malheureusement, on importe cette attitude dans l'Église. On veut que les gens remarquent ce qu'on fait pour Dieu. Et même si on peut de nos bouches dire qu'on ne se soucie pas de ce que les autres pensent, secrètement, dans nos cœurs, on peut trouver une glorification à la louange des gens. Et à chacun de nous ce matin de examiner nos propres cœurs. C'est pas une accusation que je lance at large, c'est à vous d'examiner vos cœurs. On gagne un sentiment d'importance de la part de notre ministère ou de la part de ce qu'on fait quand on est reconnu, quand les gens nous disent que c'est bien, que c'est bon, que c'est beau. C'est différent quand ils nous disent qu'ils nous aiment pas et que c'est plate. C'est un peu différent, mais ça et tout, il faut apprendre à le prendre. Et ce qui va arriver, c'est que souvent, quand les gens vont justement se mettre à servir et ne pas avoir cette reconnaissance, le danger, c'est que s'ils sont hypocrites dans ce domaine-là de leur vie, ils vont se mettre à dire « Ah, personne ne me remarque ce que je fais. Je suis capable de faire ça moi aussi. Lui, il le fait. Je suis capable de le faire comme lui. Personne ne m'apprécie à l'Église. » Malheureusement, j'ai vu beaucoup de ces conflits dans l'Église. Vous seriez estomaqué à quel point, dans notre fort intérieur, on peut être comme ça. Malheureusement, c'est souvent ici que nos cœurs résonnent et on cherche l'approbation des gens et non celle de Dieu. Mais Jésus nous montre une façon différente de vivre et de servir. Il nous apprend à être fidèles au service de son Église, à prendre la place qui est la plus basse, à laver des pieds, à donner le crédit aux autres, à faire des sacrifices en secret, à donner sa vie, à attendre patiemment. C'est un service qu'on pourrait dire assez radicalement différent que de se mettre en premier lieu comme les pharisiens le faisaient. Hein? Jésus nous enseigne à vivre de cette façon parce que c'est la façon que lui-même a vécu. Et parfois, notre attitude ressemble plus à celle des pharisiens, malheureusement, qu'à celle de Jésus dans l'Église. Et c'est le cœur de l'hypocrisie. On ne peut pas chercher la gloire de Dieu si on cherche sa gloire personnelle. On ne peut pas chercher la gloire de Dieu en même temps que de chercher sa gloire. Ça se fait pas. Soit c'est un ou soit c'est l'autre qu'on cherche. Si on est résolu à glorifier Dieu, on va devoir accepter que la reconnaissance des hommes n'est pas nécessaire à notre service pour son Église. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnaissant aux dons que Dieu donne à son Église. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire merci à ceux qui font le ménage, dire merci à notre pasteur. Mais ça veut dire que si on s'attend constamment à ce que notre gratification et notre valorisation viennent des hommes, on va constamment être déçu dans l'Église. Vous n'allez jamais servir dans une Église longtemps. Parce que tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que les gens sont pécheurs. Et vous allez être blessé. Et si vous ne servez pas pour Dieu, ça risque de ne pas durer longtemps. Ça nous apporte à la troisième malédiction que Jésus proclame sur les pharisiens au verset 44. « Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Le quatrième symptôme de l'hypocrisie. Je suis hypocrite quand je suis spirituellement mort à l'intérieur et que personne ne le sait, et peut-être même pas moi-même. C'était le cas des pharisiens, en fait. Pour les Israélites, toucher une tombe, c'était encore une fois quelque chose qui les rendait cérémoniellement impurs. Dans Nombre 19, 16, on lit « Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou un ossement humain, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. » Donc, il était rendu impur pendant une semaine complète. En raison de ces règlements, d'ailleurs, c'est ce qui faisait que les Juifs, communément dans leur cimetière, blanchissaient les tombes pour que les tombes soient très, très, très brillantes, éclairantes, voyantes, et que personne les touche par inadvertance. En raison de ce règlement, les Israélites étaient généralement très prudents alentour des tombes, des cimetières, des personnes mortes. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit aux pharisiens qu'ils étaient comme des tombes non marquées? Évidemment, c'est une condamnation. Mais ce que Jésus leur dit, c'est qu'ils n'étaient pas seulement impurs extérieurement, comme une tombe à laquelle on touche. Ils étaient aussi morts que ce qu'il y avait dans la tombe. C'est pas mal le summum de mort, t'sais. Et c'est ce que nos cœurs sont quand on vit pour Dieu seulement de façon externe. Toutefois, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas la pire partie de cette malédiction. C'est déjà terrible, mais ce n'est pas la pire partie. En utilisant cette image de la tombe non marquée, Jésus dit aussi que les pharisiens avaient une influence de corruption sur quiconque entrer en contact avec eux. Ils comparent essentiellement leur hypocrisie à des tombes cachées, qu'on ne voit pas, qui ne sont pas rendues publiques, et que leur influence corrompt des gens à cause qu'ils touchent à leur personne qui est morte. Et parce qu'ils avaient la réputation d'être stricts, d'être saints, d'être des exemples spirituels, les gens étaient portés à vouloir suivre leur exemple, suivre leur conduite. Mais tous ceux qui étaient mis en contact avec eux étaient mis en contact avec un poison spirituel qui les guidait vers l'hypocrisie et la mort. Quelle ironie! Les hommes qui essayaient de garder des choses qui essayaient de garder leur corps spirituellement pur étaient la source de souillure. L'hypocrisie des pharisiens était mortelle pour l'âme de ceux qui les suivaient. Je ne sais pas quel avertissement plus clair on pourrait avoir d'être, de bien discerner quand on choisit des pasteurs, des hommes de Dieu, des dirigeants, des modèles, on appelle ça des role models en anglais. De là l'importance de suivre ce que les textes de la parole nous disent dans Tite, dans Timothée, sur les hommes de Dieu. Vous voulez savoir si un homme est apte? Regardez pas juste ce qu'il dit de façon publique, regardez comment il vit dans sa famille, avec ses enfants, avec sa femme, avec dans son travail séculier. Personne n'est à l'abri du péché. Mais vous savez, il y a une très grande différence entre des pécheurs repentants qui travaillent à leur sanctification, ce que les chrétiens sont, et des hypocrites qui travaillent seulement pour le regard des hommes. Dans les deux cas, la vie externe peut être très similaire. Et si on n'a pas de discernement, on peut facilement manquer lequel est honnête et lequel ne l'est pas. Kent Hughes nous dit ceci dans son commentaire. Nous communiquons tous inévitablement ce que nous sommes. Nous pouvons faire à l'extérieur toutes les bonnes choses religieuses, mais nous allons ultimement transmettre ce qui est à l'intérieur. Les gens autour de nous verront l'artificialité, l'affectivité, l'élitisme, la colère, l'hostilité, la haine, la suspicion, l'amertume, les blasphèmes. Nous laissons nos empreintes digitales sur l'âme des autres, que ce soit pour Christ ou pour l'incrédulité. Vous savez, en conclusion ce matin, ce qui est le plus effrayant de l'hypocrisie, c'est que la plupart du temps, les gens eux-mêmes en sont inconscients. C'est un des péchés qui semble être un peu plus facile à distinguer de l'extérieur que de l'intérieur. Parce qu'on est bon pour se mentir à nous-mêmes, on est bon pour se justifier. C'est exactement ce que les pharisiens faisaient, mais eux en plus n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'étaient pas chrétiens, là. Encore une bonne raison de pratiquer des moments d'introspection, d'avoir un culte quotidien, d'avoir un temps personnel avec Dieu à chaque jour, justement pour constamment se remettre en lumière devant la parole de Dieu. Et vous savez, l'idée ici ce matin n'est pas de constamment mettre votre salut en question. Je ne suis pas en train de vous dire qu'à chaque matin, vous devez vous demander si vous êtes chrétien. Mais plutôt d'évaluer certains aspects de vos vies et d'évaluer peut-être que certains aspects de vos vies sont teintés d'hypocrisie. Et je veux vous rassurer, je considère que les chrétiens ne sont pas des pharisiens. Ça m'écœure quand j'entends ça d'ailleurs. Des chrétiens pharisiens, ça n'existe pas. Les pharisiens n'étaient pas chrétiens, ils rejetaient Dieu, ils rejetaient Christ. On peut dire qu'on a des caractéristiques un peu des fois qui ressemblent aux pharisiens, mais les chrétiens ne sont pas des pharisiens. Mais si ce matin vous réalisez que vous avez toutes les caractéristiques d'un pharisien, je vous exhorte avec urgence à reconsidérer votre salut par contre. Mais si vous reconnaissez qu'il y a peut-être certains aspects de vos vies qui ressemblent un peu aux pharisiens, c'est une autre chose. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas chrétien. Ça veut dire que vous avez encore, vous êtes dans votre chair et que vous avez besoin de repentance et que vous avez besoin de l'Esprit Saint pour être sanctifié. Quand Christ vient nous sauver, il vient faire ce lavage que les pharisiens n'avaient pas à l'intérieur d'eux. Et cette œuvre, elle est faite par le Saint-Esprit, elle est faite par l'œuvre de Christ à la croix. C'est pas nous qui a fait, là. Ne mécomprenez pas ce que Christ est en train de dire aux pharisiens. Il n'est pas en train de dire qu'ils auraient pu faire tout ça par eux-mêmes. Il est en train de leur dire qu'il y a besoin de lui pour faire ça. Parce que s'ils ne reçoivent pas son œuvre, ils vont mourir de la façon qu'ils sont, des hypocrites. Pensant qu'ils obéissent la loi de Dieu, mais étant morts spirituellement. Nous, en tant que chrétiens, qui recevons la parole du Christ, qui ont ce sang qui lave nos péchés, nous sommes réellement purifiés de l'intérieur. Nos assiettes sont propres. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le salut change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, purifie nos âmes de façon à ce que l'on soit capable de réellement glorifier Dieu dans notre obéissance externe, qu'on soit capable d'être intègre par l'Esprit Saint. Et même si on n'est pas comme les pharisiens, impurs de l'intérieur, on peut parfois tomber dans le péché de l'hypocrisie en tant que chrétien. Et c'est dans ce sens un peu plus limité que ce passage s'applique à nous ce matin. Et donc, on peut utiliser ces quatre symptômes pour faire un exercice d'introspection dans nos propres vies, dans certains aspects de nos vies, à savoir, est-ce que je cherche la gloire des hommes quand je sers Dieu dans l'Église? Est-ce que je me soucie plus de ce que les gens pensent de moi que ce que je suis vraiment en Christ? Et d'ailleurs, on pourrait faire l'exercice inverse, en fait. On pourrait inverser ces malédictions et ces symptômes de l'hypocrisie pour voir quels sont l'inverse pour un homme intègre. Et on pourrait y lire quatre preuves de l'intégrité. Premièrement, quand je suis plus préoccupé par la piété intérieure que par mon apparence extérieure. Deuxièmement, quand je suis plus préoccupé par mon obéissance à la loi de Dieu, à aimer Dieu et à aimer la justice que par mes opinions personnelles. Troisièmement, quand j'ai envie de servir Dieu, peu importe si je suis reconnu ou non. Et quatrièmement, quand je suis spirituellement vivant à l'intérieur et que cela est manifesté par le fruit de l'Esprit au monde. Et si on vit de cette façon, c'est une preuve de notre intégrité. Et sinon, ben, on doit faire comme tout autre péché. On doit venir devant Christ, demander pardon, se repentir et avec l'Esprit Saint, être sanctifié, marcher de mieux en mieux, de progrès en progrès. Prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous enseignes par cette exhortation, par cette réprimande que tu donnes aux pharisiens. Merci premièrement Seigneur notre Dieu parce que tu as fait cette œuvre dans nos vies, cette œuvre qui manquait à la vie des pharisiens, cette purification de leur âme intérieure. Merci parce que c'est toi Jésus-Christ qui nous a offert cette purification. C'est toi Seigneur qui nous rend purs devant le Père. Et si on peut s'avancer ce matin devant le trône du Très-Haut, c'est parce que ton sang nous couvre de toutes nos fautes. Notre grand Dieu, nous voulons te louer, te rendre gloire, élever ton nom saint ce matin, cet après-midi. Nous t'implorons, Seigneur, si certains aspects de nos vies sont teintés d'hypocrisie, que tu nous sanctifies, que tu nous apprennes à être comme ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de chercher l'intégrité, d'être reconnus comme des hommes et des femmes qui ne sont pas seulement intègres de façon extérieure, mais que, Seigneur, qui ont un cœur complètement changé, sanctifié, purifié. Merci parce que cette œuvre, c'est toi qui l'as fait en chacun de nous. Et c'est en toi, Seigneur, que l'on se fie pour nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen.